Alors, je vais aborder quelque chose de plus tranquille cette fois-ci, après que je vous ai senti bien secoué, tous les traumatismes et tout ce qui pèse lourdement sur notre constitution psychique. Bon, je vais vous parler un peu du comment la psychanalyse plutôt que du pourquoi, et en particulier des débuts de cure. Mais avant de vous proposer une réflexion sur le comment, et en l'occurrence sur les débuts de cure, je vais vous donner quelques définitions parce que sinon il y a des mots sur lesquels vous risqueriez de buter. Et c'est des mots que de toute façon on reverra en détail, hein. Donc inutile de trop vouloir les travailler tout de suite, puisqu'ils seront repris et définis ensuite. Mais j'en profite pour vous indiquer que je serai souvent appelé à vous dire et à vous redire des points que vous avez déjà entendus précédemment. Bon, c'est comme ça, hein. Commençons par une petite définition de certains mots. Les voici. État limite. Vous entendrez aussi parler des fois de borderline, qui veut dire à la limite. Au début, on utilisait ce mot parce que le trouble était considéré comme à la limite entre la névrose et la psychose. Maintenant, on pense plutôt qu'il s'agit d'une organisation psychique très souffrante, liée à un déficit dans la zone du narcissisme primaire et qui se caractérise par de nombreux symptômes, aussi bien relationnels, instabilité, impulsivité, pauvreté de la vie affective que intérieure, avec une tendance dépressive et une hypersensibilité. Donc, autant dire que les cas état limite sont des cas délicats à traiter. Donc, état limite. Squiggle, vous en avez peut-être entendu parler, c'est inventé par Winnicott pour les thérapies d'enfants. Donc, c'est un jeu. L'adulte dessine une ligne, l'enfant en dessine une autre, et cette sorte de gribouillis fait ensemble permet l'instauration d'un lien entre eux. Donc, c'est le squiggle. Test projectif. Donc, vous connaissez peut-être ça. On présente à la personne des cartons sur lesquels sont représentées soit des taches informes, des taches d'encre, soit des dessins ambigus qui peuvent donner lieu à diverses idées. Et on demande à la personne qu'elle dise qu'elle y voit ou bien quelle est l'histoire qui pourrait être racontée par la photo. Et en fait, les réponses seront des projections de soi qui indiqueront quelque chose qui existe en elle. Donc, test projectif, vous verrez que les rêves éveillés ont aussi cette dimension projective. Clivage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est au centre de l'organisation défensive des états limites et des psychoses, comme l'est le refoulement pour les névroses. Dans l'état limite, le clivage protège le moi des conflits intrapsychiques en dissociant, en coupant toute une partie de ce qui se passe en soi qui disparaît du paysage. Mais à la différence du refoulement, le clivage instaure une coupure dans le moi et pas seulement un oubli. Enfin bon, c'est des subtilités, c'est juste pour dire que le clivage est plus lourd que le refoulement. Anamnèse, ben vous connaissez le mot, hein, c'est prendre des renseignements sur la biographie de la personne, son histoire telle qu'elle s'en souvient, telle qu'elle se la raconte, et ça permet de se faire une première idée de son cursus et de ses difficultés. Et puis, travail métaphorique, à partir d'un rêve éveillé ou à partir d'images qui traversent la personne, on tourne autour de ces données en se racontant une histoire avec les différents éléments. Donc, c'est une histoire qu'on se raconte autour. Il ne s'agit pas d'un rêve éveillé, mais d'une façon de parler à mots couverts, couverts par la métaphore, des sens possibles qui se situent à l'intérieur des images et des scènes du rêve éveillé. Bon, c'était juste quelques définitions, mais le sujet lui-même, c'est plutôt les débuts de cure, hein. Alors, en deux parties. D'abord, les fondamentaux. Vous savez peut-être que Freud a comparé la formation à la psychanalyse avec la formation au jeu d'échecs. Au jeu d'échecs, si vous savez jouer aux échecs, on peut apprendre les débuts de partie, les fins de partie et la stratégie du jeu. Mais par contre, le milieu de partie, c'est pratiquement pas possible d'apprendre quelque chose. Il faut avoir compris les règles et puis ensuite, il faut être créatif pour pouvoir jouer correctement. Eh ben, c'est un peu la même chose en psychanalyse. On peut connaître les débuts et les fins et puis la stratégie du jeu, mais par contre, il va y avoir quelque chose d'assez créatif au centre. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler, les débuts. Mais avant de parler des débuts, il faut qu'on ait une vue plus générale de ce que c'est que le mouvement des pièces, hein. Alors, la première chose qui me paraît importante à souligner, c'est que un des points fondamentaux de la cure, c'est le vécu de l'analyste. Bizarre, hein? On verra plus tard pourquoi c'est tellement important. Et dans les vécus de l'analyste, il s'agit de différencier ces différents vécus. Parce que souvent, dans les supervisions, j'ai remarqué ça, ils ont tendance à mettre tout ça dans un même paquet. C'est mon contre-transfert. Ben non, il y a plein d'autres vécus, des vécus différents, et c'est important de les différencier. Par exemple, il y a l'empathie, bon, vous connaissez, qui consiste à voir les choses de la manière dont la personne les voit. Donc, c'est glisser dans sa vision du monde. Il y a la sympathie, non pas au sens général du terme, mais plutôt au sens étymologique, sympathein, c'est-à-dire ressentir ensemble, la résonance émotionnelle. La personne est en train de pleurer, elle est très émue, et vous-même, vous êtes très ému, et c'est très bien. Parce que du coup, il y a quelque chose comme une espèce de lien, là, qui se passe. Un analyste qui resterait très tranquille face à certaines émotions de son patient serait sans doute un analyste qui est en train de se protéger et de ne pas vivre quelque chose en commun avec la personne. Donc, je différencie, bien que ce soit des petites subtilités, l'empathie, qui consiste à comprendre comment la personne voit le monde, et la sympathie, qui consiste à être en résonance émotionnelle. Bien entendu, vous avez aussi l'identification projective, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que vous êtes en train de ressentir des éléments violents, des affects forts, que le patient ne ressent absolument pas. En général, c'est quand vous avez affaire à quelqu'un qui est clivé. Donc, mettons, une personne est à limite. Alors, elle va vous raconter quelque chose d'horrible, tranquillement, avec une voix paisible, et vous, vous allez être complètement bouleversé, remué, etc., avoir envie de vomir. Ben ça, c'est de l'identification projective. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe en vous vous dit quelle est l'émotion que la personne aurait besoin de retrouver et dont elle se coupe. Donc vous voyez que la même émotion, très forte, peut avoir un sens différent suivant que c'est de l'identification projective, c'est-à-dire de l'émotion de l'autre qui est déposée chez vous, mais que lui, dont lui est coupé, ou que c'est une résonance émotionnelle que vous partagez. Donc, en plus de l'empathie, de la sympathie, d'identification projective, je pense qu'il y a aussi un truc indispensable, c'est que l'analyste ait des sentiments parentaux disponibles. Qu'il y ait quelque part à l'intérieur de soi, comme une espèce de bonne mère, une sorte de bienveillance de fond. J'ai quelquefois remarqué que c'est plus difficile aux analystes qui n'ont pas d'enfants de sentir cette capacité à être comme une bonne mère de fond. Bien entendu qu'on ne va pas montrer ça ouvertement, ni on va pas se comporter vraiment dans la réalité comme une bonne mère, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'il y ait ce sentiment de bonne mère ou de bon père. Enfin, quelque chose qui est comme une espèce de sentiment parental disponible. Et en plus de tout ça, évidemment, le principal, c'est le contre-transfert. Mais vous voyez que le contre-transfert, c'est différent encore. C'est un point très précis. Le contre-transfert, c'est le jeu qui m'est proposé par le transfert du patient me pousserait à faire quelque chose. Je ressens en moi, ça me pousserait à le rejeter, ou à l'agresser, ou à être séduit, ou à ça me pousserait à m'endormir, etc. Il y a quelque chose comme une sorte de jeu proposé inconsciemment par le transfert, qui est une façon de dire à l'analyste, mets-toi à la place complémentaire de mon transfert et ressens par exemple ce que les parents ressentaient vis-à-vis de moi. Le contre-transfert, c'est vraiment un élément fondamental et on verra pourquoi, évidemment, longuement. Et donc, c'est intéressant de le différencier parce que c'est un point capital. Pourquoi c'est un point capital? Parce qu'il vous indique deux choses. Quel jeu ne pas jouer? Parce que justement, il ne faut pas rentrer dans la répétition traumatique du jeu névrotique proposé ou psychotique proposé en rentrant dans le jeu contre-transférentiel qui nous est proposé. Donc, on sait quel est le jeu qu'il ne faut pas jouer. Et du coup, si on réussit à ne pas le jouer du tout et à faire autrement, ça prépare la possibilité ultérieure pour le patient de l'introjection d'une imago parentale bonne, différente de celle qui était initialement attendue par le transfert de la personne. Donc, ça permet de ne pas jouer le jeu, de bien repérer son contre-transfert, et ça permet de se faire des hypothèses intéressantes sur son intrapsychique et son histoire. C'est un des éléments qui permet de savoir quel est le jeu qu'il faut pas jouer, mais aussi un des éléments capitaux, parce que on sent qu'il y a des hypothèses qui se font à partir de là. Et on peut se demander si elles ont de la validité ou non. Alors, pour que l'analyste fasse son boulot correctement, il faut qu'il développe en lui des tas d'hypothèses. Et ces hypothèses sont à base de liens. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie réelle? Qu'est-ce qui se passe dans ses rêves? Qu'est-ce qui se passe dans ses rêves éveillés? Qu'est-ce qui se passe dans le transfert qui me laisse entendre que probablement il y a eu quelque chose qui est traumatique ou problématique à tel endroit? Donc, on se fait des tas d'hypothèses parce que du coup, plus vous faites des liens à l'intérieur de vous, plus vous favorisez que le patient puisse lui-même aussi faire des liens. Un analyste qui ne se fait pas d'hypothèses, qui se contenterait de rouler comme ça tranquille à suivre ce qui se passe, ben, il préparerait pas la possibilité chez le patient de créer des liens. Mais du coup, ce qui permet de savoir quelle hypothèse est sans doute la plus pertinente, eh bien, ça repose prioritairement sur deux piliers, ce que me dit le contre-transfert et ce qui se passe dans les rêves éveillés. Et en annexe, ce qui se passe dans les rêves nocturnes et dans les troubles dans la vie réelle. Donc, il y a deux éléments fondamentaux qui vont permettre le changement à l'intérieur d'une cure, c'est la gestion du contre-transfert et les rêves éveillés. Or, ultérieurement à la fin de l'analyse, ce qui est bon, donc on parle des débuts de partie, mais il faut connaître les fins aussi, c'est que la personne soit capable de faire des liens par elle-même, qu'elle soit capable de se retrouver plus facilement avec elle-même pour savoir qu'est-ce qui se passe en elle-même. Et cette capacité de lien est en même temps liée à la capacité de lien que l'analyste a eue pendant la cure. Donc, on se résume. Il doit faire des tas d'hypothèses, mais toutes les hypothèses ne sont pas justes, bien entendu. Par exemple, on se dit, tiens, ton frère avait 6 ans de plus, est-ce qu'il y a eu un abus sexuel par le frère quand il était adolescent, alors qu'elle était encore toute jeune? Par exemple, on se fait une hypothèse. Comment savoir si cette hypothèse est juste ou fausse? Eh bien, il y a deux critères fondamentaux, je viens de vous les dire. Qu'est-ce que me dit le contre-transfert et qu'est-ce que disent les rêves éveillés? Et à la lumière de ces deux critères fondamentaux, j'aurai des points d'appui intérieurs pour savoir si mon hypothèse risque d'être pertinente ou si elle est peu pertinente. D'où la nécessité de bien repérer ce qui est le contre-transfert différencié des autres types de vécu. On se fait des hypothèses en s'appuyant sur ces deux piliers et en annexe sur les rêves nocturnes et les troubles dans la vie réelle, ce qui fait 4 points. Rêve éveillé, rêve nocturne, transfert et vie réelle. Et, entre parenthèses, ces 4 points représentent les critères de fin de cure. Est-ce que les rêves éveillés ont évolué? Est-ce que les rêves nocturnes montrent une évolution? Est-ce que le transfert a changé? Et est-ce que dans la vie réelle, il y a eu un vrai changement? Bon, si ces 4 points ont évolué, on a des chances d'arriver vers une fin de cure correcte et non pas vers une fausse sortie. Mais comme mon thème aujourd'hui n'est pas la fin de cure, je vais juste en rester là en ce qui concerne les critères de fin de cure. Alors, pourquoi se faire des hypothèses? Eh bien, c'est aussi qu'on va faire un travail plus pertinent au niveau du jeu métaphorique. Parce que si on a une hypothèse, on écoute autrement ce qui est en train de se dire dans le rêve éveillé. Mettons, vous allez travailler sur une image. Non pas en cherchant à la décoder d'une façon directe, qui, à mon avis, est une erreur parce que ça vous met en position haute et parce que ça risque trop de susciter des associations mentales, mais plutôt en jouant autour. La psychanalyse, c'est un jeu aussi, on joue ensemble. Qu'est-ce que c'est ce mur-là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que peut faire la personne en face de ce mur? Est-ce qu'elle va le démolir? Est-ce qu'elle va le contourner? Est-ce qu'elle va sauter par-dessus? On joue autour de l'image. Pour deux raisons. Pour un travail plus pertinent concernant la constellation du préconscient par le jeu métaphorique, pour éviter les interprétations sauvages ou non, et ce jeu métaphorique assez similaire au Squiggle ou Winnicottien est extrêmement intéressant parce qu'il constelle le préconscient, et puis non seulement fait un travail plus pertinent pour consteller le préconscient, mais aussi ça permet de s'approcher de l'interprétation qui est sous-jacente sur le sens de ce rêve éveillé-là, de cet objet-là, symbolique. Mais la manière d'en parler, de façon distanciée, à travers un jeu métaphorique, permet d'une part que la personne s'approche du sens, et il y a beaucoup plus de chances qu'elle puisse se l'approprier ensuite en trouvant elle-même l'interprétation, ce qui du coup évite que nous nous trouvions en position interprétative. Là, par rapport à plein d'autres psychanalyses, nous, on a une différence considérable, c'est qu'on ne fait pratiquement pas d'interprétation directe. Vous verrez pourquoi. En tout cas, ça permet que la personne s'approche du sens qu'il est en train de se dire et se l'approprie. Et d'autre part, de parler ainsi sous une forme métaphorique, ça permet d'avancer à mots couverts. C'est-à-dire qu'on va s'approcher, un peu comme dans le rêve éveillé, mais là c'est quand même différent, on va s'approcher à mots couverts de ce qui est déposé dans ces symboles-là. Le travail métaphorique sera bien meilleur si vous avez une hypothèse. Quelque chose là cherche à se dire, mais on verra plus tard ensemble pourquoi, il est impératif de ne pas aller trop vite vers des interprétations en bonne et due forme, verbalisées. D'une part parce que ça vous met en position d'être celui qui est dépositaire de la vérité de l'autre, ça peut donc susciter des résistances. Et d'autre part, ça ne favorise pas la machine à lien du patient, la machine à découvrir, la capacité de symbolisation. Alors, l'intérêt de se faire des hypothèses et de travailler d'une façon métaphorique, c'est que ça favorise l'appropriation subjective par le patient du chemin qu'il fait et qu'il a fait ici. Et puis, en deuxième lieu, il a découvert une capacité de symbolisation, de mise en forme de ce qui se passe en lui au niveau du préconscient, et ensuite de mise en mots plus conscients de cette symbolisation. Et comme il s'est approprié le chemin, il pourra ultérieurement avoir une capacité à se récupérer beaucoup plus facilement, quoi qu'il arrive, que s'il a eu affaire à un brillant analyste qui lui a donné des tas d'interprétations intelligentes, mais qui lui a pas permis justement de s'approprier son propre chemin et de développer ses propres capacités de symbolisation. Donc vous voyez, les deux thèmes qui vont revenir très souvent, c'est capacité de symbolisation et appropriation subjective. Ce qui fait qu'on arrive à la stratégie et au but de la cure. Le but de la cure, c'est de revivre et de terminer autrement les traumatismes. Avec, comme vous l'aurez compris, les deux axes prioritaires pour ça, la gestion du contre-transfert et l'évolution des rêves éveillés. Traumatisme, ça ne veut pas dire, enfin, c'est pas forcément du traumatisme au sens qu'il y a eu quelque chose de spectaculaire. Mais c'est une zone intérieure, un moment qui n'a pas pu être symbolisé correctement au moment où ça s'est passé pour le psychisme infantile. Et on pourrait dire du coup qu'il y a plusieurs choses qui sont traumatiques. Il y a, quand le psychisme infantile ne dispose pas des moyens de comprendre la réalité de ce qui se passe et donc de la déformer à travers sa propre vision, par exemple, quand il découvre la différence entre les sexes, et qu'il se demande pourquoi il y en a qui n'ont pas de pénis et pourquoi il y en a qui en ont un. Donc il se fait toute une hypothèse sur la castration, etc. Et ça peut faire traumatisme, et pas toujours. D'autre part, il peut y avoir eu réellement des traumatismes, carence ou intrusion ou autre, le trop, le pas assez, le souvent dont je vous ai parlé. Et puis, plus tard, il peut y avoir eu une violence traumatique qui est venue fracturer l'ensemble du système. Mais la plupart du temps, malgré tout, même s'il n'y a pas eu quelque chose d'extrêmement traumatique dans l'adolescence ou dans l'enfance, il suffit que la petite enfance soit porteuse de choses mal symbolisées, mal comprises par le psychisme infantile, pour poser des problèmes parce que ça va déformer la vision de soi-même et du monde. Et donc, on va tâcher de symboliser ce qui n'avait pas pu l'être, non seulement terminer autrement les traumatismes, mais apprendre à symboliser, de le mettre en forme, de le mettre en scène. Alors, pour ça, bien sûr, toujours contre-transfert et rêve éveillé, parce que les rêves éveillés sont une expérience du fait qu'ils sont vus, qu'ils sont verbalisés, mais qu'ils seront surtout vécus. Sinon, ce n'est pas du rêve éveillé. Un test projectif, on raconte une histoire sur un test projectif, c'est beau, c'est intéressant, c'est très porteur de signification, mais ce n'est pas un rêve éveillé. Un rêve éveillé, ça doit être vu et vécu comme une expérience, avec des affects, des émotions ressenties dans le corps, etc. Et en faisant ça, on restaure, en terminant les traumatismes, en restaurant la symbolisation de ce qui n'avait pas pu être symbolisé, eh bien, on restaure les bases mêmes du psychisme. Je vais vous donner une définition qui est donnée par Didier Anzieux. Donc, je cite. Une définition possible de la cure psychanalytique, c'est celle de permettre aux patients de faire des expériences archaïques, fondamentales, constitutives de la psyché, du moi et du penser, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire dans son existence naturelle. Fin de citation. Bon, finalement, ce qu'on fait au bout du compte, la stratégie du jeu, le but de la cure, eh ben, ça a été dit de façon très intéressante par Didier Anzieux ici, et moi je retiens ça comme base. Une fois qu'on sait que c'est ça le but, c'est-à-dire de permettre de refaire des expériences archaïques fondamentales constitutives de la psyché, du moi et du penser, on a une idée générale du fait que la cure est orientée vers cela. Voilà, ça c'est le but général. Alors, comment on va faire? Alors, je reviens sur une question que j'ai commencé à évoquer, qui est la question de la névrose de transfert. Il s'agit que s'instaure une névrose de transfert. Ça veut dire quoi, une névrose de transfert? Ça veut dire que l'ensemble de la problématique de la personne est focalisé à l'intérieur de cette relation-là, avec cet analyste-là. Si la personne se disperse, si elle a un bout de transfert d'un côté, un bout de transfert de l'autre, elle fait par exemple un chemin avec la psychanalyse, mais elle fait aussi un groupe de gestalt ailleurs, et puis par ailleurs elle va voir je ne sais qui pour un truc extrêmement intéressant, etc. Si la personne fait ainsi, d'une certaine manière, elle empêche la cristallisation de la névrose de transfert à l'intérieur de la cure. Or, c'est si tous les éléments sont concentrés ici qu'on va pouvoir faire vraiment un boulot important, quoi. Et là, on tombe sur la question des résistances. Parce que ce n'est pas si simple que ça d'aller voir tout ça. Donc, je vous évoquerai en quoi le transfert est une résistance, qu'on appelle la résistance du transfert. S'il est trop massif, soit négatif, soit positif, ça risque de fausser la cure. Si la personne a un transfert vraiment trop massif et qu'elle considère que vous êtes le plus mauvais du monde, qu'il n'y a pas moyen de faire avec vous, ben, il y a bien des chances pour que ça risque d'arrêter la cure. Sauf si on dispose du rêve éveillé sur lequel va se déposer ce transfert négatif. Et un transfert positif, massif, idéalisant, va aussi une résistance. Parce que la personne sera uniquement axée sur qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire, comment vos merveilleuses paroles vont pouvoir l'aider, etc., etc. Et du coup, elle s'occupe plus d'elle et des rêves éveillés, vous voyez. Donc, en fait, nous, on a la grande chance d'avoir un tripôle, je vais vous le dire pourquoi. Donc, il y a le pôle du patient, le pôle de l'analyste et le pôle du rêve éveillé, ce qui fait que très souvent, il y a une possibilité de déposer un des deux transferts le plus résistant sur un des deux pôles. Donc, il faut avoir dépassé ça, la résistance du transfert, mais ce n'est pas trop compliqué pour nous, du fait du rêve éveillé. Ce qui est peut-être un peu moins connu, en tout cas auquel on doit faire attention, c'est la résistance au transfert. C'est-à-dire que la personne vous prend, non pas comme une personne très importante dans sa vie, mais comme un objet fonctionnel. Elle évite le plus possible d'être dans une relation affectivée avec vous. Elle vient vous voir comme on vient voir son plombier ou son dentiste. Ben là, il y a quelque chose qui vous place toujours comme un objet utile. Et du coup, toute l'intensité de ce qui va pouvoir se jouer au niveau du transfert et du contre-transfert va être très, très difficile. Il va falloir lutter contre cette résistance au transfert parce que sinon, elle va empêcher l'investissement fort de la cure. Ça ne va pas permettre qu'on ait tous les atouts possibles. Donc, on va travailler avec la personne. Là, c'est une des rares situations où on va essayer d'interpréter ce qui se passe. Alors, dans l'ensemble, bon, ben, on va bien gérer ces écueils du fait du tripôle, mais les deux choses qui favorisent, surtout au début, c'est le lien suffisamment positif, favorisé dans les premières séances, le transfert de base, le système à deux, et puis c'est le contrat qui permet un contenant sécurisant avec des modalités qui permettent l'investissement, l'alliance de travail, un contrat avec l'adulte, la partie du moi qui amène en cure. Donc alors, la question, c'est ce foutu transfert négatif. Parce qu'il faut qu'il y ait du négatif. Il est impératif qu'il y ait du négatif. Parce qu'à ce moment-là, il y a toute une partie du transfert qui va du coup amener ce qui va devoir être travaillé. Mais il faut qu'il se dépose sur une partie qui ne va pas empêcher la cure. Donc il y a une partie du transfert dans notre cure rêve éveillé, puisqu'il y a les trois pôles, le patient, l'analyste, le rêve éveillé, qui va être posée sur l'analyste, et une partie du transfert qui va être posée sur les figurations symboliques du rêve éveillé et sur le rêve éveillé lui-même. Ce qui fait qu'on pourra avoir une configuration très particulière dans laquelle il pourra y avoir une partie du transfert négatif, mettons sur vous, sans que ça arrête la cure, parce que parallèlement, il y aura une partie du transfert positif sur le rêve éveillé. La personne dira en gros, cet analyste, c'est vraiment pas ça, mais le rêve éveillé, c'est vachement intéressant. Bon, très bien. Ou la configuration qui est la plus habituelle, c'est plutôt l'inverse. La personne est dans un transfert positif sur cette analyse qui est vachement bien, et tout le négatif va surgir dans les rêves éveillés. Vous allez avoir une relation très positive avec la personne, et puis les premiers rêves éveillés, ou assez rapidement, vont être des trucs merdiques, des choses dramatiques, etc. Ben, tant mieux, parce qu'au moins, le négatif qui doit se dire et se découvrir, et dont on doit trouver la source, eh ben, il peut se déposer quelque part sans venir saboter la cure. Alors, quelques mots sur le transfert avant de voir la mise en place concrète qui permettra ce tripôle. En ce qui nous concerne, je pense que les premières séances sont l'occasion d'avoir un lien, disons suffisamment positif, un transfert de base qui peut s'établir parce que la personne va sentir dans ses premières séances la qualité de présence, la qualité d'accompagnement, la façon d'être. Éventuellement, une certaine activité, parce que dans un premier temps, je crois qu'il faut que la personne sente qu'on est prêt à l'aider à se récupérer. Si elle vient d'une façon assez écroulée, il est important qu'elle reçoive une écoute active et pas seulement juste une écoute analytique. Ça dépend évidemment. Mais dans l'hypothèse où la personne vient vraiment dramatiquement écroulée, eh ben, il faut qu'on soit actif. Sinon, on ne va pas la revoir. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui venaient me voir en me disant, j'ai été voir un psychanalyste, je l'ai vu 4 fois, il m'a pas dit un mot, j'ai pas continué. Je crois que c'est une erreur. Il faut qu'on puisse, dans un premier temps, être plus actif. Mais on comprend pourquoi les psychanalystes classiques qui n'ont pas le tripôle avec le rêve éveillé évitent d'être actifs dans un premier temps, parce que pour eux, l'élément fondamental sur lequel ils vont travailler, c'est le transfert et le contre-transfert. Et comme il n'y a pas de support tiers du rêve éveillé, ils ne peuvent pas se permettre d'être très actifs au départ, parce que ça risquerait de fausser le transfert. Tandis que, en ce qui nous concerne, à partir du moment où on installera le système tripôle, le fait qu'on ait été plus actif au début n'est pas une gêne, puisque de toute façon, il va y avoir un dédoublement ultérieur du transfert et une partie du négatif qui se déposera sur un des deux pôles. Un des deux pôles autre que le troisième pôle. Je crois qu'un des atouts du système tripôle, c'est qu'on peut être plus actif dans un premier temps et que ça va créer comme une sorte d'alliance de travail de base. Alors évidemment, ça dépend si c'est une problématique narcissique identitaire ou oedipienne. Il y a des types de difficultés un peu différentes suivant que c'est névrotique ou état limite, et ce qui donne des transferts très différents. Mais bon, de toute façon, il y aura du transfert négatif et c'est principalement là que va se rejouer le négatif pour être traité. Dans le transfert classique, le patient est comme l'enfant qu'il a été et l'analyste ressent à l'intérieur de lui-même, contre-transférentiellement, des pulsions, des envies, des émotions, des désirs, des images qui sont assez similaires à ce que le parent a pu être vis-à-vis de cet enfant. Tout au moins le parent tel que l'enfant l'a reconstruit intérieurement, peu importe. Ça, c'est le transfert classique. Vous êtes un peu comme un parent vis-à-vis d'un enfant et vous sentez comment ça pousserait vers telle ou telle direction. Mais il y a aussi un transfert inversé. Et là, c'est plus dans les pathologies état limite, narcissique, identitaire. Pourquoi? Parce que un état limite, il a un noyau complètement fracturé. Il est avec quelque chose d'extrêmement violent, mal contenu, avec un moi faible, troué, avec une grosse difficulté à faire avec plein de choses de la vie. Et avec des symptômes lourds. Donc, quand vous avez affaire à un état limite, c'est insupportable pour lui de se retrouver dans la position de l'enfant qu'il a été, insupportable. C'est des angoisses mortelles, c'est l'agonie primitive, comme expliqué par certains psychanalystes, dont Winnicott. C'est des choses comme ça. Donc, s'il se retrouve dans la position de l'enfant face aux parents, c'est insupportable. Alors lui, il va faire autrement. Il va être lui-même le parent destructeur et vous, vous allez ressentir contre-transférentiellement des vécus d'enfants détruits. Et donc, avec un état limite, c'est très difficile, c'est douloureux, c'est délicat à gérer en tant qu'analyste parce que vous êtes sans arrêt sapé, bombardé, attaqué, détruit par le patient, de toutes les manières possibles. Les attaques contre le cadre, les horaires, le paiement, le rythme, mais aussi des attaques plus directes. Vous êtes nul, vous comprenez pas, c'est pas comme il faut, les autres sont tellement mieux. D'ailleurs, elle a été voir telle personne, c'était vraiment super, alors qu'avec vous, c'est complètement nul, etc., etc. C'est un bombardement incessant de destructivité massive qui ressemble au bombardement primaire dont la personne n'a plus de souvenir, mais qui a été son vécu, et puis que vous, vous recevez en pleine gueule. Vous êtes cet enfant détruit, et il faut le supporter. C'est très bien d'ailleurs. Donc il y a un problème lorsque ce contre-transfert spécifique vient toucher une fragilité narcissique chez l'analyste. Parce qu'à ce moment-là, l'analyste va se dire, ah oh ben oui, j'y comprends rien, oh oui, je suis pas bon. Oui, il ferait mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Oui, en effet, etc., etc. Donc, l'analyste ne tient pas bien le choc. Et à ce moment-là, au lieu de réussir à être l'enfant qui survit et que ultérieurement le patient réintégrera, eh ben, il peut commencer à avoir des systèmes de rétorsion. L'analyste trop sensible, trop touché dans sa fragilité narcissique, il peut commencer à l'oublier, faire une erreur dans les rendez-vous, ou alors avant le rendez-vous, il se dit, oh là là, si seulement ce patient allait voir quelqu'un d'autre. Mais il continue, le patient en question, parce que la personne, elle, elle vient, elle fait son boulot de venir, elle est accrochée, ne serait-ce que pour venir vous dire à quel point vous êtes mauvais, nul, et pour vous faire sentir tout ce qu'elle a vécu. Donc, là, problématique narcissique identitaire, transfert inversé, c'est plus délicat et ça dure plus longtemps. Parce qu'il faut d'abord et avant tout que vous surviviez en tant que psychanalyste. Si vous survivez, c'est-à-dire que malgré les attaques incessantes, vous restez stable, vous restez bon, vous restez créatif parce que vous réfléchissez à ce qui peut, tout ça peut vouloir dire. À ce moment-là, ultérieurement, à un moment donné, l'état limite va pouvoir commencer à introjecter l'enfant non détruit que vous êtes et à pouvoir s'approcher avec sa propre destruction, avec sa propre agonie, avec sa propre douleur de son enfant détruit parce qu'il est en partie restauré par l'introjection de l'enfant qui a survécu que vous avez été. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il y a une bascule du transfert. Pas complète, mais on commence à avoir des séances où la personne peut se situer dans son enfant blessé. Elle a besoin à ce moment-là que vous soyez un bon parent et de découvrir une autre imago parentale. Et c'est pour elle une période extrêmement difficile parce que jusqu'à présent, elle était clivée de l'enfant blessé. Donc, clivée, pas de problème, c'est vous qui receviez tout. Sauf qu'il avait des tas de symptômes et des tas de trucs troublants. Mais là, elle est plus clivée. Et au moment où elle est plus clivée, elle est bouleversée par ce qui est en train de venir, de monter, de son enfance agonistique au départ. Donc, avec un transfert inversé, ce qui est le cas du transfert qu'on a avec un état limite ou une problématique narcissique identitaire bien cognée, il va falloir d'abord passer par un renforcement du moi avant qu'on ne puisse envisager de faire un travail réveillé correct. Et là, j'aime autant vous dire qu'on est sur la crête. Toujours au bord de la rupture, toujours au bord du passage à l'acte de la part de l'état limite. Passage à l'acte de casser la cure. Jusqu'à ce que quelque chose soit enfin reconstitué et qu'on puisse arriver à établir une cure analytique rêve éveillé plus classique, avec un transfert plus classique, avec le tripôle, etc. Alors qu'avec un transfert névrotique classique, ben là, c'est plus simple. Il faut installer les choses correctement et après, ça se passe sans difficulté aussi grande. Conclusion. Il faut que le transfert négatif trouve sa place dans la cure, sans pour autant être un empêchement à la cure. problème pour les psychanalystes qui n'ont pas ce cadre particulier de l'analyse rêve-éveillée et qui sont souvent, ils en parlent, en recherche de tiercéité. André Green a utilisé ce mot. Didier Anzieux parle de l'analyse transitionnelle. René Roussillon, des psychothérapies à médiation. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui fait la richesse spécifique du travail analytique rêve éveillé, c'est que c'est un travail à trois pôles. Et les analystes classiques tournent autour de ça. Hein. En particulier, Roussillon parle des psychothérapies à médiation et de ce qu'il appelle le médium malléable, qui peut ressembler au rêve éveillé d'une certaine manière. Mais qui ressemble aussi, quand on s'occupe d'enfants, à la pâte à modeler, qui prend tout ce qu'on veut comme forme et qui souvent permet de raconter des histoires horribles. Bon, peut-être que les analystes classiques vont bientôt découvrir de plus en plus l'analyse rêve éveillée, espérons-le. En tout cas, ils s'avancent progressivement vers l'intérêt du système à trois pôles dont je vous parle et que je vous souhaite de comprendre vraiment bien comment ça fonctionne. Et je répondrai à toutes vos questions là-dessus.